Pêcheux tenta de consoler Julien en lui présentant une belle pomme, mais l'enfant se montra si craintif en l'examinant se rapprocher que le missionnaire préféra déposer le fruit sur l'une des couchettes avant de sortir du dortoir en disant « Cette pomme est pour toi si tu as faim ». Le soir venu, le missionnaire se promena dans la cour de l'institution en discutant discrètement avec les mythes. Il fallait trouver un moyen de sortir cet enfant des griffes mortelles de cette commune qui aimait conditionner ses membres à la servitude des noires intentions de la secte d'Alba. Servir le diable ou Alba était la même chose. Le mythe universel dit au missionnaire, « Je pense qu'il est temps pour nous d'intervenir dans l'esprit de ce garçon. Nous allons tenter de le sortir de son enfer en lui offrant un protecteur. Demande aux enfants de fabriquer un pantin en papier mâché et surtout de le peinturer de couleur douce. Il faudra qu'ils évitent le noir, le rouge foncé, le brun et même le gris. Qu'ils prennent un beau rouge clair, du jaune, du rose, du bleu, du violet et du doré. Selon toi, quelles seraient les couleurs que tu voudrais pour sa tête, son corps et ses pieds? » demanda le missionnaire. Idéalement, il devrait avoir la tête blanche, le corps rouge clair et les pieds de la couleur de l'herbe tendre du printemps. Le protecteur sera à guérir ce garçon de ses craintes envers cette secte qui cherche à le maintenir dans un état mental extrêmement négatif. On voudrait qu'il puisse un jour créer des formes pensées, n'est-ce pas? Demanda Pêchel. Oui, c'est par l'énergie négative de ses membres que la secte d'Alba parvient à sortir du chaos des monstres capables de prendre l'apparence de la réalité physique. Pour les vaincre, il faut que l'esprit de ce garçon cesse de craindre ces apparitions ténébreuses, puisqu'elles proviennent uniquement des esprits chaotiques et non d'un monde infernal. Autrefois, les gens croyaient fermement en ces démons qui habitaient les ténèbres. Ils s'en protégeaient en invoquant des bons esprits, des anges gardiens et des héros mythiques. En réalité, cela n'avait aucune importance de définir un lieu quelconque pour y ranger tous les monstres de notre imagination. Ils sont encore en mesure de détruire les faibles d'esprit dès qu'ils sont conditionnés à les craindre. L'énergie négative disparaît dès qu'on cesse de la nourrir avec des idées noires. Les sectes chaotiques utilisent plusieurs symboles religieux, car c'est une foi qui est à la source de leur pouvoir occulte. Ils maintiennent leur pouvoir en emprisonnant leurs fidèles dans la pratique de rituels qui ont pour but de terroriser celui qui ne pourra justifier ses actes qu'en se disant soumis à un ordre supérieur. La peur, la honte, l'humiliation, la dégradation et le sentiment de culpabilité ne sont que quelques-unes des clés utilisées par cette secte. Pêchel opina d'un large signe de tête avant de répondre. Il faut donc que Julien se persuade que le pantin est une force protectrice contre ceux qui le maintiennent dans la peur, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement cela. Lorsqu'il sera terminé, Pêchel, il faudra que les enfants écrivent le nom de Julien sur un morceau de papier et qu'ils dessinent un cœur entouré d'un cercle. Je te donne ici une image vivante de ce que l'enfant de la secte ressentira en lui-même dès que nous nous manifesterons dans l'invisible. Sans avoir vu les jolis cœurs souriants qui lui sont adressés par ses camarades, les mythes vont agir. Si les hommes connaissaient mieux le pouvoir de la prière, ils réaliseraient qu'il s'agit d'une énergie qui se manifeste directement sur nos moules. Oui, nous sommes les moules dans lesquels se forment les réalisations. Lorsque les hommes ont prié pour un sauveur, nous l'avons vu se former dans nos moules avant qu'il naisse dans le temps. Nous sommes les puissances qui dessinent ce qui prendra naissance dans le monde temporel. Alors, si ce garçon ignore le désir de ses camarades, aura vraiment peu d'importance, car pour nous le message est là, et la foi de ceux qui veulent sa guérison agira directement sur nos moules intemporels. Le pantin heureux sera le protégé contre ses peurs, et la secte réalisera que tout ce qu'elle a fait contre lui se retournera fatalement contre elle, puisque ses pouvoirs chaotiques ne sont que des projections. « Dois-je déposer le pantin dans ses bras pendant qu'il dormira ?» demanda le missionnaire. « Non, il suffira de le glisser sous son lit. Le reste est notre affaire. » C'était dimanche et tous les pensionnaires se rendirent à la jolie chapelle de l'orphelinat. Jean-Yves s'arrêta à l'infirmerie, où il logeait temporairement Pêchel et l'accompagna à la messe du dimanche. Il fallait traverser une passerelle située entre l'ancienne et la nouvelle partie de l'institution. Notre homme ne fut nullement surpris de constater l'absence du jeune bizarre, comme se plaisait à l'appeler Jean-Yves. Il était malade et Sœur Donald préférait le garder au lit pour la matinée. Il avait vomi en se levant et cette religieuse lui en fit vite le reproche en exigeant qu'il nettoie le plancher avant de se remettre au lit. Comme il avait également fait pipi dans ses draps, la sœur se contenta de placer une couverture sur sa couchette en disant froidement qu'elle le punira dès qu'il ira mieux. Péchel savait pourquoi Julien ne voulait pas assister à la messe et même comment il s'y était pris pour vomir. Ce truc est bien connu des faux malades qui trouvent des excuses pour ne pas aller à l'école, par exemple. Puis, il y a le truc du thermomètre que l'on chauffe en le frottant énergiquement sur un tissu rugueux afin de faire monter la température. Il y a également les allumettes, mais à 6 ou 7 ans, on ne doit pas jouer avec le feu. On pourrait également citer le truc des éternuements continus. Il suffit de s'introduire un petit objet non coupant ou pointu dans une narine et d'exciter les muqueuses. On donne alors l'impression de commencer un sacré rhume de cerveau. Après la messe, Péchel suivit les autres pensionnaires au réfectoire. Il prit place à la table de 6 garçons et les fit sourire en vantant le mérite des religieuses qui avaient préparé du lait au chocolat et des rôtis. Il comprit finalement pourquoi c'était du lait au chocolat et non du lait blanc, comme d'habitude, lorsqu'il y goûta. Il était vraiment sûr, même si le chocolat devait en principe en masquer le mauvais goût. Puis, les rôtis étaient froids et molles. On aurait dit qu'on les avait faits avec du caoutchouc. Heureusement que c'était dimanche, car les pensionnaires avaient droit à des céréales sucrées. Comme il pleuvait, la sortie au parc fut annulée. Péchel proposa donc à la mère supérieure d'enseigner aux enfants comment faire des marionnettes en papier mâché. L'idée était bonne et Sœur Donald ne tarda guère à s'accaparer les services de l'homme, à tout faire pour qu'il enseigne d'abord aux enfants son unité à faire ses collages. Elle disparut ensuite de la circulation lorsqu'elle éprouva une terrible fatigue qu'elle prit pour un début de grippe. En réalité, c'était les maîtres de l'invisible qui désiraient la tenir à l'écart pour un certain temps. Jean-Yves Otis et plusieurs de ses camarades trouvaient très intéressant de fabriquer une grosse marionnette, mais beaucoup moins attirant cette idée de faire des dessins positifs. En effet, dessiner des jolis cœurs adressés à leurs camarades bizarres et encore alités pour le reste de la journée n'intéressait pas du tout ces jeunes. Péchel ne pouvait les blâmer de porter un jugement sévère sur ce garçon de la secte. Il ne pouvait comprendre les raisons de ses étranges comportements. Le pantin fut tout de même terminé en quelques heures. Il était très rudimentaire du point de vue artistique et surtout très collant. Il tenait debout grâce à son adhésion solide à la table. Il fallut gratter le tour des pattes pour réussir finalement à le décoller de l'établi à bricolage. Comme les enfants insistaient pour ne pas dessiner ces gros cœurs que l'homme voulait introduire dans la marionnette, il fallut négocier ces cœurs contre un tour de magie. Péchel fabriqua d'abord une baguette magique et se retira ensuite dans un coin pour préparer son tour de magie. Les enfants ne croyaient pas qu'ils puissent changer de l'eau jaune en eau verte. Contre ce tour de magie extraordinaire, ils étaient disposés à accepter sa demande. Ce drôle de missionnaire dissimula de la peinture bleue dans une petite bouteille lorsqu'il demanda à ses amis de peinturer le pantin avec de la gouache blanche, rouge et verte. L'idée de ce tour de magie lui traversa l'esprit lorsqu'il vit un bol d'eau claire sur la table. Il versa donc de la couleur jaune dans ce liquide pour ensuite prétendre qu'il pouvait changer cette couleur en la brassant simplement avec une baguette magique. Jean-Yves lui fit une grimace en le défiant de le faire. L'homme lui répondit sans hésiter. « Tu ne me crois pas, et vous non plus, n'est-ce pas, les amis? D'accord? Pour réaliser un tour de magicien, il faut évidemment une baguette magique, sans quoi je serais incapable d'accomplir des prodiges. Laissez-moi la fabriquer en secret, car je dois l'avouer, je suis un vrai magicien qui n'aime pas dévoiler la source de ses pouvoirs. Je vous préviens que vous devrez me faire ces dessins positifs pour votre camarade si je change cette eau jaune en vert. » Le truc de Péchel fut inventé au Moyen Âge. C'était à l'époque où plusieurs magiciens se disaient en mesure de multiplier une quantité d'or par un élixir secret. Plusieurs rois et riches seigneurs féodaux se firent duper par ces faux faiseurs d'or, qui remplissaient simplement des baguettes de bois avec de la poudre d'or, pour ensuite les sceller avec de la cire. Une fois trempé dans un chaudron bouillant, où il jetait le supposé élixir, la cire, les baguettes creuses fondaient rapidement et l'or se mélangeait tout simplement à la recette magique. Une fois refroidi, cet or véritable était offert aux témoins de ce phénomène de transmutation. Puis les charlatans prétendaient pouvoir obtenir le double de cet or si on voulait bien accepter d'en faire chauffer quelques grains dans une autre marmite au creuset. Un témoin y jetait un peu de son or pour ensuite examiner le magicien brasser de nouveau le liquide avec une autre baguette qui contenait encore de la poudre d'or. Comme de raison, il prouvait qu'on obtenait deux fois plus de ce précieux métal en le mélangeant avec un peu d'or. On peut donc s'imaginer la réaction de ces riches qui croyaient fermement doubler leur réserve d'or à la confiance à ces faux alchimistes. Ils n'étaient sans l'ombre d'un doute, puisque les vrais adeptes de ce grand or méprisaient ce vulgaire métal froid. Lorsqu'ils parlèrent de l'or véritable, c'était celui qui transformait l'homme et la femme en deux êtres aussi purs que Adam et Ève avant la perte du paradis. Mais pour en revenir à notre missionnaire, il truqua donc sa baguette en y introduisant de la couleur bleue pour ensuite la sceller avec de la colle. Lorsqu'il la trempa dans le bol, la colle fondit et la couleur se mélangea avec le jaune. Les enfants durent tenir leur promesse pendant que l'homme riait de les avoir bernés aussi facilement. Le panté fut placé secrètement sous le lit de Julien. La nuit suivante, le garçon fit des rêves agités, mais au matin, il demanda à Jean-Yves s'il désirait partager un sac de bonbons qu'il cachait sous son oreiller. Il demeurait encore très méfiant, mais on ne pouvait demander au mythe de changer l'état d'esprit de ce garçon dans une seule nuit. Il fallut environ deux semaines pour qu'il se rapproche de ses camarades de dortoir. La tâche n'était vraiment pas facile, car Sir Donald ne faisait rien pour l'aider à se revaloriser. Elle critiquait tout le temps, au grand désespoir de Péchel qui commençait à perdre patience. Julien était très inquiet depuis quelques jours. Le missionnaire en connaissait les raisons. C'est que les effets positifs prenaient peu à peu de la place dans son esprit et par conséquent, la conscience de cet enfant le tiraillait. Il réalisait beaucoup de choses au sujet de la secte et cela lui faisait peur. Il agissait comme quelqu'un qui voudrait fuir. Une nuit, il se mit à avoir des hallucinations. Il criait, pleurait et semblait même repousser violemment les bras d'un être méchant. Péchel se rua dans le dortoir pour tenter de calmer le bambin, mais une force le projeta loin du lit. L'énergie psychique de Julien était en train de le posséder. Cela s'explique par le fait que l'enfant était persuadé que le diable viendrait le torturer s'il trahissait la secte. Comme son conscient désirait tout de même se libérer des liens avec les membres de son ancienne commune, des peurs terribles subsistaient dans son inconscient. L'enfant devait donc se battre contre lui-même. Péchel vit alors le pantin se promener sur le bord de la fenêtre. Il n'était plus animé par l'énergie dégagée par Julien, mais par les mythes. Il venait de se glisser sous la marionnette pour lui donner plus de pouvoir. Le garçon effrayé criait que le diable était dans le dortoir, mais ses camarades aussi craintifs que lui tremblaient sur leur lit en regardant le pantin se mouvoir dans les airs avant de sauter sur le ventre de Julien. Il fondit en laissant les gros cœurs dessinés sur des bouts de papier. Alors Péchel s'approcha lentement du lit en disant d'une voix calme, « C'est fini. Oui, le diable a fui en voyant le pantin de l'amour t'apporter la preuve que tu es protégé par tes camarades qui t'aiment beaucoup. » « Oui, Julien, personne ne te fera du mal, car le pantin d'amour est plus fort que toutes les forces du mal. Il va toujours te protéger. » Le bambin pleurait, mais cette maudite force qu'il avait créée par ses peurs terrifiantes s'était volatilisée avec le pantin. Péchel s'est alors assis sur le bord de son lit pour lui montrer les jolis cœurs souriants au centre d'un mandala. Ces bonhommes agissaient exactement comme des symboles d'amour universel et s'adressaient directement au subconscient de Julien. L'effet fut radical dès que l'enfant prit ses dessins pour les serrer sur son cœur. Il ferma les yeux en souriant. Il était exténué, mais s'endormit ensuite en paix avec lui-même. Ce garçon n'était plus le même depuis sa transformation par les mythes. Il avait peur du diable comme tout le monde, mais il croyait fermement qu'il n'était plus seul à présent. Il y avait ce pantin invisible en qui il plaçait sa confiance. Ce héros intérieur pouvait le défendre contre ses craintes de la secte. Puis, Julien se fit plusieurs amis dans cette institution. En ce qui concerne ce pantin d'amour, rares sont ceux qui le verront s'animer, comme dans le cas de Julien. Cependant, nous possédons tous un tel héros intérieur qui loge dans notre cœur. Il suffit de l'évoquer pour trouver la force de nous attaquer aux difficultés de la vie. Il devient notre compagnon lorsqu'on se sent seul ou inquiet. Dès que l'on s'aime en soi-même, on fait naître un héros qui grandit avec nous, et dès que l'on hait, celui-ci meurt vaincu par notre haine. Julien fut peu bavard au sujet de sa famille. Il avoua un policier vêtu en civil, être membre d'une commune sans toutefois porter d'accusation contre qui que ce soit. Péchel savait que ce garçon ne tenait pas à mettre la vie de d'autres enfants en danger, et pour cette raison, il refusa d'en dire davantage, avant que les autorités retirent tous les enfants de cette secte. Une enquête fut ouverte secrètement, et Julien demeura à la crèche malgré la pression de ceux qui savaient qu'il ne pourrait plus contrôler l'esprit de ce garçon, à moins de pouvoir le reconditionner. Alors que l'enquête se poursuivait à grands pas, Julien et ses amis reprirent une vie normale, ou presque. Vivre dans un orphelinat n'était pas tellement le paradis, mais la fête de Noël approchait rapidement et les enfants s'y préparaient en demandant à Péchel s'il y aurait un gros sapin dans la salle de séjour. Notre homme en trouva un superbe dans le parc de Rockcliffe et attendit la nuit pour le couper clandestinement. Le lendemain, il aida ses jeunes amis à le décorer. Les enfants attendaient tous leur cadeau avec impatience, même si le Père Noël était devenu sourd d'oreille en vieillissant. C'était du moins l'opinion de Jean-Yves et de ses amis, Raymond Bérubé, Jean-Pierre Gingras, Michel Tremblay, Émile Bérubé et Paul-Émile Garcin. Ensemble, ils écrivirent une lettre au Père Noël qui pouvait se lire ainsi. « Père Noël, Pôle Nord, Canada. Père Noël, nous savons que tu vas venir au Mont-Saint-Joseph pour apporter nos cadeaux de Noël. Voici ce que on veut cette année. » Cette lettre semblait assez bien écrite pour Péchel, lorsque les pensionnaires lui demandèrent son avis. Comme notre homme ne savait ni lire ni écrire, il lui aurait été difficile de savoir s'il pouvait comporter quelque faute d'orthographe. En notant qu'il y avait des lettres à la suite des autres, cela devait être convenable à son humble avis. Dans celle-ci, les enfants demandaient au Père Noël de leur apporter des jouets différents de l'année dernière et, si possible, ce qu'ils avaient demandé dans leur prière. Les pauvres orphelins ignoraient sans doute que les religieuses devaient limiter les dépenses de l'institution en offrant des cadeaux recyclables à leurs pensionnaires. Une fois les fêtes passées, elles faisaient disparaître tous les jouets offerts à Noël et les conservaient jusqu'à l'année suivante. Les enfants étaient tous excités en attendant les anges qui viendraient les chercher avant la messe de minuit. En effet, les religieuses allaient les prendre dans leur lit pour les descendre dans leurs bras jusqu'à la chapelle. Certaines sœurs se revêtaient volontiers le costume d'ange pour créer une véritable féerie la nuit de Noël. Puisque plusieurs d'entre elles étaient malades au lit, la mère supérieure décida de laisser tomber cette tradition pour une fois. Vers les 11 heures du soir, tous les enfants faisaient semblant de dormir et attendaient, le cœur battant comme des tambours joyeux, l'arrivée des anges, qui ne viendraient pas. La messe de minuit fut même annulée, et on ne jugea même pas important d'en avertir les enfants, puisqu'ils dormaient profondément. Les religieuses ne savaient pas que cette nuit-là était la seule dans toute l'année où les petits protégés pouvaient les enlacer. C'était triste, mais c'était la vérité. Les pensionnaires ne recevaient jamais d'affection, jamais de tendresse, jamais de caresses. C'était la loi du célibat qui prônait dans cette institution, sans quoi quelle mère n'aurait pas souhaité pouvoir embrasser ses enfants. Le missionnaire apprit la triste nouvelle et pleura en lui disant que ses jeunes amis attendaient encore l'arrivée des anges. Il se disait ainsi, « Les orphelins sont si souvent seuls, c'est pour cela qu'ils sont orphelins. » Lui-même demeura seul devant la fenêtre de l'infirmerie et regardait la neige tomber en silence en se disant qu'il serait bientôt minuit. Les corridors étaient tous à peine éclairés comme ceux des hôpitaux. La crèche était triste, ses murs respiraient la couleur grise des robes de ses sœurs. À 11 h 30, le missionnaire ferma les yeux afin de se concentrer pour mieux prier. Jean-Yves Otis fut le premier à voir un ange s'avancer vers son lit en lui tendant les bras. L'enfant était vraiment fasciné par la beauté de l'être qui le serra comme une Marie et son jeune fils Jésus. Puis d'autres enfants du dortoir furent saisis par ces fées. Oui, les anges étaient les fées de Voirpou, c'est-à-dire celles qui quittèrent le pays enchanté pour venir vivre secrètement sur terre. Chastel, la fille de la nature, était accompagnée par plusieurs consoeurs et même par les lutins du Père Noël. Un long cortège d'enfants, soutenu par des êtres presque transparents, arriva bientôt à la chapelle où Pêchel attendait ses jeunes amis en pleurant de joie. Les fées ne pouvaient décevoir ces enfants qui étaient tous les amis du fils de leur sœur Marianne. Un vieux prêtre, bedonnant et au sourire candide, trouvait tout de même naturel de célébrer la messe de minuit dans une chapelle bondée d'enfants et de fées. Ce cher curé, la Violette, fit un large sourire à Pêchel avant de lui demander d'être son servant de messe. Après la messe, Pêchel conduisit les pensionnaires dans la grande salle de séjour pour qu'il y rencontre le Père Noël. Le vieil homme à la barbe blanche était évidemment le vrai Santa Claus, puisqu'il devinait exactement à qui était destiné tel ou tel cadeau. Pour une fois, les enfants furent tous excités par leurs étrennes. Jean-Yves se retrouva avec une grosse bicyclette bleue, ornée de franges au bout des poignets. Ce présent et ceux des autres enfants provenaient tous du véritable village du Père Noël. Un garçon alla même chercher son ourson décousu sur son lit afin de le présenter à la fée Carabosse. Puisque celle-ci pouvait changer les citrouilles en chevaux, elle accepta de transformer ce vieux toutou en un joli ourson tout neuf. La crèche fut animée une grande partie de la nuit, sans que les religieuses ne se réveillent au son des bruits de flûte, des klaxons, de bicyclettes, des tambours et des trains électriques. La fille du sommeil faisait bien son travail, ainsi que la fille des rêves. Les enfants pouvaient jouer dans les corridors et surtout se gaver de nourriture au réfectoire. Pêchel y avait préparé un repas qui prendrait au moins 3 jours à digérer. Puis, peu à peu, les enfants s'endormirent dans leur petit lit dès que la fille du sommeil passa sa baguette magique au-dessus de leur couchette. Au matin, les religieuses entrèrent dans les dortoirs dans le but de faire lever les enfants pour la messe de 7 heures. Elles trouvèrent des centaines de cadeaux autour des lits et virent surtout plusieurs dormeurs qui portaient encore des bonnets de nuit offerts par le Père Noël. Pêchel fit alors la description de cette nuit fantastique et les religieuses se rendirent seules à la chapelle pour remercier Dieu, les anges et les fées. Quelques semaines plus tard, Pêchel tenta de discuter avec l'un des pensionnaires sur son avenir. Il voulait évidemment parler à Paul-Émile Garcin, le futur auteur de ses aventures. Étrangement, il lui fut impossible de s'adresser à ce garçon depuis qu'il vivait dans cette institution. Les maîtres de l'invisible connaissaient si bien la curiosité de leurs missionnaires qu'ils trouvèrent à chaque fois un moyen d'empêcher notre homme de s'entretenir avec Paul-Émile. Comme Pêchel le crut possible de lui adresser la parole, lorsqu'il le vit entrer à l'infirmerie pour y attendre la sœur infirmière, il lui dit en riant, « Bonjour à toi, qui que tu sois. »« Monsieur Pêchel, pourquoi me demandez-vous qui je suis ?» lui répondit l'enfant d'un air surpris. « Mon nom est Paul-Émile, vous l'avez oublié ?»« Sûrement pas, voyons. Est-ce que tu aimes raconter des histoires, Paul-Émile ?»« Je ne sais pas. »« Ah bon. Ton ami Jean-Yves m'a dit que tu as déjà raconté l'histoire de sorcière qui a tellement tenu en haleine tes amis et les religieuses qu'elles oublièrent de vous envoyer prendre votre douche ce soir-là. » Qui t'avait raconté cette histoire si intéressante? Personne, voyons. Je l'ai inventée seulement pour empêcher Sir Donald de m'envoyer prendre ma douche. Tu ne voulais pas te laver? Ce n'est pas de me laver qui m'ennuyait le plus, mais de devoir présenter mon caleçon plein de pites. Je vois. Il n'était pas propre, et tu craignais que la religieuse te gronde, n'est-ce pas? Oui, alors j'ai dit à Sir Donald que je connaissais une histoire que je pourrais raconter pendant que d'autres garçons iraient se doucher. Je l'ai inventée sans même savoir comment elle finirait, vous savez. Je pense que les belles histoires ne finissent jamais vraiment. On les raconte sans pouvoir en trouver la fin, lui répondit Pêchel. L'infirmière entra pour examiner la gorge du bambin qui semblait avoir un début de coqueluche. Pêchel se retira en le saluant de la main et se dit vraiment satisfait de cette heureuse rencontre, puisque le garçon se souviendrait toujours de cette salutation de Primus Tazal. « Bonjour à toi, qui que tu sois. » il aurait bien aimé lui suggérer d'autres images pour l'aider à pondre sa longue histoire sans fin, mais la prudence lui interdisait de l'influencer. Il trouvait tout de même fort amusant cette histoire de caleçon sale qui déclencha peut-être la créativité de ce futur auteur. Il ne faudrait tout de même pas se surprendre si celui-ci utiliserait à l'occasion des images peu orthodoxes pour ses aventures, comme dans celle de Pêcher les ramages, où le héros fait pipi en attendant ses ennemis. Puis, n'est-ce pas à cause d'un gaz carbonique de l'âne Tinon si les ennemis décidèrent de fuir? On trouvera bien d'autres allusions à ces indécences de la nature qui sauveront tout de même les héros de ses aventures. Il faut croire que Paul-Émile trouva également intéressant de s'éviter la colère de Sir Donald en inventant sa première histoire fantastique pour la distraire. La nuit suivante, Pêchel se promenait dans un corridor lorsqu'il s'arrêta devant le dortoir des protégés de Sir Donald. Il ouvrit la porte sans faire de bruit, puisque la chambre de la religieuse se trouvait près de celle-ci. Il vit alors le futur auteur de ses aventures devant une large fenêtre. Le garçon venait encore de faire pipi au lit et fixait ce ciel nocturne en attendant que sèchent ses draps et son pyjama. Pêchel se croisa les bras en souriant, puisqu'il comprit que Paul-Émile était déjà fasciné par le firmament et les jolies étoiles. On aurait dit qu'il admirait un spectacle invisible. C'était qu'il rêvait déjà un monde différent du nôtre. Pêchel se retira sans lui laisser deviner sa présence. Quelques jours plus tard, notre homme, à tout faire, lavait le plancher d'un corridor lorsque Jean-Yves l'aborda en lui disant d'une voix attristée. « Tu sais, Pêchel, j'ai bien failli demander aux fées de m'amener au paradis la nuit de Noël. Tu crois que ma mère aurait été contente de me voir? » « Oui, je le crois. Mais il faut mourir avant d'aller au paradis, n'est-ce pas? » « Oui, c'est mieux qu'il en soit ainsi, mon petit Jean-Yves. Notre corps demeure sans vie, mais notre âme va vivre sans lui. » « C'est quoi l'âme au juste? Les sœurs disent que notre âme monte au ciel, mais je ne sais même pas à quoi elle ressemble. » Pêchel rangea sa vadrouille dans un coin du corridor et invita l'enfant à le suivre à la cuisine du réfectoire. Il fouilla dans les armoires et trouva une vieille arachide qui allait être suffisant pour expliquer à Jean-Yves à quoi ressemblait une âme. « Tu sais, lorsque j'étais enfant, ma tante se servait d'une noix pour m'expliquer à quoi servait l'âme et à quoi on pouvait la comparer. Que vois-tu au creux de ma main? » Une vieille pinotte, voyons, s'empressa de répondre le garçon en riant. « Oui, c'est exact. » « Alors veux-tu l'avaler, toute ronde, puisque c'est bel et bien une arachide? »« Avec l'écaille, pas question, » lui répondit l'enfant. « Mais tu viens de me dire que c'était une pinotte. »« Oui, mais la vraie pinotte est dedans. »« Ah, ça c'est beaucoup plus vrai. »« Mais si tu dis que ce qui se mange est à l'intérieur de l'écaille, à quoi sert-elle alors? »« Tu vois la coquille ou l'écaille, et comme notre corps et l'arachide ressemblent à notre âme. » « C'est pour ça qu'on jette dans un trou le corps de celui qui meurt? »« Oui, on se défait du corps comme de l'écaille, puisque celui-ci servait uniquement à former le fruit qui se trouvait à l'intérieur de nous. Lorsque l'âme n'est plus là, le corps devient inutile, Jean-Yves. »« Le bon Dieu mange des âmes alors? » demanda l'enfant d'un air troublé. « Il fait pousser des fruits dans les corps afin de s'en nourrir un jour. »« il faut bien que l'arachide que tu manges puisse te nourrir comme tout ce qui doit être mangé pour vivre. La vie est ainsi faite, Jean-Yves. Elle fait pousser toutes sortes de choses sur terre pour nourrir les humains, les animaux, les insectes et même les fleurs. Et ceux-ci nourrissent le bon Dieu lorsqu'ils arrivent à l'heure de la cueillette. Écoute, le bon Dieu ne fait pas mal aux âmes lorsqu'il les sort de leur écaille corporelle. Il est plutôt comme un vrai Père Noël qui ouvre sa porte aux enfants qui sortent d'une prison pour entrer dans un monde très beau, très lumineux et très riche en couleurs. Le ventre du bon Dieu est semblable à un univers dans lequel les âmes vont y demeurer comme des fruits. Lorsqu'il mange une âme, c'est pour la nourrir également de son amour. Ensuite, celle-ci pourra en sortir afin de retourner dans sa création. Le bon Dieu avale des âmes et doit ensuite les digérer, mais il fait ensuite caca. Oh, c'est une image qui pourrait te faire comprendre la vie. Pour qu'elle existe, il faut qu'elle mange, comme nous le faisons à tous les jours. Tout ce qui existe doit manger, et faire ensuite caca si tu veux. Tu sais, le caca des vaches est répandu dans un champ, va le rendre fertile. L'univers, tu sais c'est quoi au juste, Jean-Yves? C'est le ciel, les étoiles, les planètes et les soucoupes volantes. Oui, c'est également une grosse coquille qui renferme toutes les étoiles, les planètes et les soucoupes volantes, si tu veux. C'est aussi ce qui est sorti du ventre du bon Dieu. C'est les crottes. Pourquoi pas des crottes rondes comme les planètes? Il en fait plusieurs. On appelle cela de la matière, mon Jean-Yves. Tu vois, celle-ci ne peut durer éternellement. C'est comme, pour le caca de vache, que le fumier qui se répand sur le sol pour l'engraisser. Ce fermier, c'est l'âme qui cultive son champ afin d'obtenir une belle récolte pour le bon Dieu. Nous possédons tous un champ dans notre cœur, et c'est l'âme qui le cultive au cours de notre vie sur Terre. Notre corps doit disparaître comme les planètes et même les galaxies. Mais comme le bon Dieu aime la vie, il refait de nouvelles planètes et même d'autres galaxies pour que les hommes puissent travailler à cultiver leur champ. Comme elles sont éternelles, il faut bien qu'elles quittent la matière afin de poursuivre leur travail dans différents champs du Créateur. Tu sais, lorsqu'une âme entre dans un corps, elle devient toute crottée parce qu'elle habite une matière mortelle. Il faut alors la laver afin de la purifier. On appelle cela le baptême. Oh, ça va pour les crottes, mais si le bon Dieu fait caca, il doit aussi péter. Sûrement. C'est un vent très chaud que certains nomment le feu de la création ou encore le feu de la vie. Tu es drôle, Péchel. Alors dis-moi, qui est le diable si tu sais autant de choses? Mais c'est simplement l'odeur du pète. Le diable pue comme le pète. Tu vois, il y a des gens qui font le mal, attirés par cette odeur désagréable du diable. C'est normal et naturel d'aimer manger et de péter avant de rejeter cette nourriture qu'on a digérée. Pourtant, c'est le contraire qu'on fait sur Terre. On ne veut pas donner à manger à tous les humains, mais on passe notre temps à sentir mauvais à cause qu'on aime l'odeur des pètes du bon Dieu. Oui, le diable est comme le pète du Créateur, et voilà pourquoi le bon Dieu le laisse empester le monde. Monsieur Péchel, s'écria Sœur Donald, qui venait d'entrer en trombe dans la cuisine. Vous n'avez pas honte de parler du bon Dieu de cette façon. Jean-Yves, retourne rejoindre tes camarades dans la cour. Péchel fit signe à son ami d'obéir sans poser de questions. Dès qu'il fut seul avec la religieuse, il lui dit sans détour. « Ma sœur, pourquoi devrais-je me sentir honteux de parler ainsi à Jean-Yves, puisqu'il s'agit d'un fait de la nature? Il se peut que mes comparaisons soient brutales, mais elles répondent tout de même à l'une des lois fondamentales de la vie. Qu'on le veuille ou non, la nature a fait en sorte que tout ce qui vit doit se nourrir, pourrir et servir à nourrir la nature. Dire que Dieu fait caca n'est pas plus stupide que de le prendre pour un vieux puritain qui s'amuse à condamner ce qu'il a mis au monde. Mais qui êtes-vous donc pour parler ainsi de Dieu? Mais simplement une âme comme vous, ma sœur, qui recherche Dieu. Personne en ce monde ne possède ce pouvoir de le voir en face, et donc, pour cette raison simpliste, je ne vois pas où les religions désirent conduire les hommes, vous savez. Je crois plutôt que c'est lui qui se laisse voir aux humbles sans toutefois leur montrer son vrai visage. Nous passons notre temps à juger son œuvre lorsqu'elle semble loin de nos intérêts et de notre pauvre condition de mortel. Êtes-vous certaine de pouvoir raisonner un mystère comme celui de Dieu, ma sœur? Alors pourquoi m'accusez-vous d'utiliser des images simplistes pour expliquer au moins ce que tout le monde connaît? Je suis certaine que vous n'allez pas souvent à la messe et à la confesse pour oser douter des enseignements de notre Sainte Église. Apprenez, ma sœur, que les religions utilisent les mêmes clés pour faire le bien que pour faire le mal. La secte qui a bien failli perdre Julien utilise exactement les mêmes moyens pour damner les hommes que les prêtres qui font peur à leurs fidèles en présentant un Dieu incapable de juger des hommes au-delà de la compréhension humaine. La conversation entre Sœur Donald et Péchel fut si corsée que notre homme ne fut nullement surpris de se faire remercier de ses services par la mère supérieure. Pourtant, Sœur Élisabeth profita d'un instant de distraction des autres religieuses pour glisser un petit mot dans la poche du missionnaire. Il disait ainsi, « Les enfants vous aiment, et moi-même. Nous vous reverrons sans doute au paradis. » Que Dieu vous garde, monsieur Péchel.